Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Cette année, l'UGA, Université Grenoble-Alpes, présentera son festival culturel universitaire sur le thème « Mythe ». Il aura lieu du 24 au 31 mars et ils m'ont proposé de faire une émission dans le cadre de leur festival. Pour m'adapter au thème du festival tout en restant proche des contes, je suis allée chercher du côté de la mythologie et plus particulièrement du côté des métamorphoses. Si on additionne la mythologie plus les métamorphoses plus le printemps, parce que bon, on est en mars, on obtient une émission sur les métamorphoses végétales. Je me suis appuyée sur l'œuvre d'Ovid, intitulée « Les métamorphoses », pour préparer cette émission. Dans la mythologie, les métamorphoses ont toujours un but bien précis. Elles n'interviennent pas par plaisir ou par loisir. On va voir aujourd'hui que les métamorphoses végétales peuvent servir à échapper à un assaillant. Elles peuvent aussi intervenir suite à un désespoir profond, mais elles sont aussi un gage d'amour. Dans la mythologie, les amours sont parfois complexes, pas toujours réciproques et souvent dramatiques. C'est ainsi que Daphné sera changée en laurier. Apollon est éperdument amoureux d'elle et la poursuit sans cesse de ses ardeurs. Daphné ne souhaite pas céder à Apollon, ni à aucun homme d'ailleurs. Elle souhaite rester vierge. Mais son père, le dieu Péné, la met en garde. Sa beauté est malheureusement un obstacle car tous les hommes sont épris d'elle et il lui sera difficile de leur échapper. Apollon est le plus insistant. Lors d'une course-poursuite, Daphné voit ses forces faiblir, alors elle implore son père de la métamorphoser pour la libérer des assauts d'Apollon. Voici l'extrait en question. Apollon voit les cheveux de la nymphe flotter négligemment sur ses épaules. « Et que serait-ce, dit-il, si l'art les avait arrangés ? Il voit ses yeux briller comme des astres. Il voit sa bouche vermeille. Il sent que ce n'est pas assez de la voir. Il admire, et ses doigts, et ses mains, et ses bras plus que demi-nus, et ce qu'il ne voit pas, son imagination l'embellit encore. » Daphné fuit plus légère que le vent, et c'est en vain que le dieu cherche à la retenir par un discours. Il en eût dit davantage, mais, emportée par l'effroi, Daphné, fuyant encore plus vite, n'entendait plus les discours qu'il avait commencés. Alors de nouveaux charmes frappent ses regards. Les vêtements légers de la nymphe flottaient au gré des vents, Zéphyr agitait mollement sa chevelure déployée, et tout, dans sa fuite, ajoutait encore à sa beauté. L'amour le lance sur les traces de Daphné. Il les suit d'un pas plus rapide. Il s'attache à ses pas, il croit déjà la tenir et le cou tendu, allongé, semble mordre sa trace. Le timide animal, incertain s'il est pris, évite les morsures de son ennemi et il échappe à la dent déjà prête à le saisir. Tels sont Apollon et Daphné, animés dans leur course rapide, l'un par l'espérance et l'autre par la crainte. Le dieu paraît voler, soutenu sur les ailes de l'amour, il poursuit la nymphe sans relâche. Il est déjà prêt à la saisir, déjà son haleine brûlante agite ses cheveux flottants. Elle pâlit, épuisée par la rapidité d'une course aussi violente, et fixant les ondes du Péné, son père, elle dit « S'il est vrai que les fleuves participent à la puissance des dieux, mon père, secourez-moi. Terre, ouvre-moi ton sein ou détruis cette beauté qui me devient si funeste. » À peine elle achevait cette prière, ses membres s'engourdissent. Une écorce légère presse son corps délicat, ses cheveux verdissent en feuillage, ses bras s'étendent en rameaux, ses pieds, naguère si rapides, se changent en racines et s'attachent à la terre. Enfin, la cime d'un arbre couronne sa tête et en conserve tout l'éclat. Apollon l'aime encore, il serre la tige de sa main et sous sa nouvelle écorce, il sent palpiter un cœur. Il embrasse ses rameaux, il les couvre de baisers que l'arbre paraît refuser encore. « Eh bien, dit le dieu, puisque tu ne peux plus être mon épouse, tu seras du moins l'arbre d'Apollon. Le laurier ornera désormais mes cheveux, ma lyre et mon carquois. » De même que Daphné, Syrinx, une naïade, est poursuivie par les ardeurs de Pan. Là aussi, c'est elle qui implore sa famille, ses sœurs en l'occurrence, de la métamorphoser pour échapper à son assaillant. Voici l'extrait. Un jour, Le dieu Pan, qui hérisse sa tête de couronne de pin, vit Syrinx et lui adressa un discours. Mais la nymphe, insensible à ses prières, avait fui par des sentiers difficiles jusqu'aux rives sablonneuses du paisible Laton. Le fleuve arrêtant sa course, elle avait imploré le secours des naïades, ses sœurs. Croyant saisir la nymphe fugitive, Pan embrassa le des roseaux. Pendant qu'il soupirait de douleur, ses roseaux, agités par les vents, rendirent un son léger, semblable à sa voix plaintive. Le dieu, charmé de cette douce harmonie et de cet art nouveau, s'écria « Je conserverai du moins ce moyen de m'entretenir avec toi !» Le dieu, coupant des roseaux d'inégale grandeur et les unissant avec de la cire, forma l'instrument qui porta le nom de son amante. On remarque que ces métamorphoses sont des échappatoires éphémères, Carné et Syrinx, bien que métamorphosés, resteront, malheureusement, captives de leur assaillant. Syrinx est transformée en roseau, une plante qui est symbole de force, mais aussi de fragilité. Ainsi, elle garde une trace, par-delà sa métamorphose, de son destin funèbre. Le dieu Pan souffle dans ce roseau pour en sortir un son et crée ainsi un instrument de musique. On peut aussi interpréter ce son comme l'ultime plainte de Syrinx. Mais le plus ironique étant sans doute que Daphné est transformée en laurier. Cette plante symbolise la victoire, mais ce n'est pas sa victoire à elle qu'elle célébrera, mais bien celle d'Apollon qui a fini par obtenir ce qu'il voulait. Nous venons de le voir, la métamorphose peut être une échappatoire plus ou moins victorieuse. Mais elle peut permettre aussi d'échapper, et surtout de mettre fin, à une tristesse incoercible. C'est le cas par exemple des Héliades, qui sont les sœurs de Phaéton, qui, inconsolables suite à la mort tragique de leur frère, seront transformées en peupliers et leurs larmes deviendront de l'ambre. Dans le monde végétal, le peuplier est rattaché à l'autre monde, c'est-à-dire le monde des morts. Il symbolise la mélancolie et le souvenir des êtres disparus. Mais le regret peut lui aussi conduire à la métamorphose. Si Parisius, un jeune homme inconsolable d'avoir tué par mégarde le cerf dont il avait la responsabilité, demandera au dieu d'être métamorphosé, il sera exaucé car il sera transformé en cyprès, un arbre qui symbolise la vie éternelle car son feuillage est toujours vert. Il était planté aux abords des tombeaux et des bûchers et on le trouve de nos jours dans les cimetières pour accompagner les défunts. Voici le passage en question. Dans les champs de Carthée errait un cerf fameux consacré aux nymphes de ces contrées. Un bois spacieux et doré orne sa tête, un collier d'or pare son cou, flotte sur ses épaules, attaché par de légers tissus, une étole d'argent s'agite et brille sur son front. Mais qui l'aima plus que toi, jeune Cyparissus, le plus beau des mortels que l'île de Cos ait vu naître? Tu le menais dans des frais et nouveaux pâturages, tu le désaltérais dans l'eau limpide des fontaines. Tantôt tu parais son bois de guirlandes de fleurs, tantôt, sur son dos assis, avec un frein de pourpre, tu dirigeais ses élans, tu réglais sa course vagabonde. Mais c'était vers le milieu du jour. Couché sur le gazon, dans un bottelage épais, le cerf goûtait le frais, le repos et l'ombre. Cyparissus imprudemment le perce de son javelot. Et le voyant mourir de cette blessure fatale, il veut aussi mourir. Cyparissus gémit et ne demande au dieu, pour faveur dernière, que de ne jamais survivre à sa douleur. Cependant, il s'épuise par l'excès de ses pleurs. De son sang, les canaux se tarissent, les couleurs de son teint flétri commencent à verdir, ses cheveux, qui naguère ombrageaient l'albâtre de son front, se hérissent, s'allongent en pyramide et s'élèvent dans les airs. Apollon soupire. « Tu seras toujours, dit-il, l'objet de mes regrets. » Tu seras chez les mortels le symbole du deuil et l'arbre des tombeaux. Autre tragique histoire, celle de Clytie. Elle sera longtemps la maîtresse du soleil, jusqu'à ce que celui-ci lui préfère la belle Leucothé. Elle manigança pour faire disparaître sa rivale, mais pour autant ne récupérera jamais plus les faveurs de soleil. Son désespoir est tel qu'elle finit par ne plus s'alimenter, ne buvant que ses propres larmes. Elle passe ses journées immobiles, à suivre du regard la trajectoire du soleil jusqu'à devenir un héliotrope, une fleur dont les feuilles se tournent tout au long de la journée vers le soleil. D'ailleurs, l'étymologie du mot est parlante car hélios veut dire soleil et trépo veut dire tourner. Dans le langage des fleurs, les héliotropes symbolisent l'attachement et la dévotion, car elles s'en remettent complètement au soleil. Voici l'histoire de Clytie, racontée par Ovide. Quant à Clytie, même si l'amour pouvait excuser sa douleur et la douleur justifier la délation, l'auteur de La Lumière n'alla plus à sa rencontre et mit un terme au plaisir de Vénus avec elle. Depuis lors, elle dépérit, rongée par son amour fou, ne supportant plus les nymphes. Jour et nuit, sous le ciel, elle resta assise sur le sol nu, les cheveux découverts et mal peignés, puis, s'étant privée d'eau et de nourriture durant 9 jours, elle ne s'alimenta que de simples rosées et de ses propres larmes, sans jamais quitter le sol. Elle ne regardait que la face du dieu quand il passait, et elle tournait son visage vers lui. Ses membres, dit-on, se fixèrent au sol. Une pâleur blême transforma une partie de sa personne en tige sans vigueur. Rouge est une autre partie, et une fleur très voisine de la violette couvre son visage. Elle, bien que retenue par sa racine, elle se tourne vers le soleil et, sous sa forme nouvelle, lui conserve son amour.
When I go, don't cry for me. In my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Si jusqu'à présent je vous ai présenté les métamorphoses sous l'angle de la violence et du désespoir, je vous rassure, nous allons terminer cette émission sur des preuves d'amour. Prenons par exemple la belle Lecoté, dont je vous ai parlé au détour de l'histoire de Clytie. Lecoté, bien que marié, cède aux avances du soleil et sera puni par son père qui ne peut supporter ce comportement. Voici ce qu'écrit Ovide. Ce père cruel et sans pitié fait saisir sa fille. En vain, tendant les bras vers l'astre du jour, elle s'écrie. Il employa la violence, il triompha malgré moi. Le barbare, l'ensevelissant vivante dans la terre, d'un sable pesant fit couvrir son tombeau. Le soleil, par la force de ses rayons, travaille à te dégager, à t'ouvrir un chemin à la lumière, à la vie, mais accablé sous le poids qui te couvre, nymphe infortunée, tu ne peux soulever ta tête et déjà tu n'es plus. Depuis la mort funeste de Phaéton, le dieu dont la main guide les rapides coursiers du jour n'avait point éprouvé, dit-on, de douleur si profonde. Il essaie encore, en redoublant les traits de sa lumière, de ranimer ses membres glacés, d'y rappeler la chaleur et la vie, mais le destin jaloux s'oppose à tous ses efforts. Le dieu épanche alors sur le sable et sur le corps de son amante un nectar odorant, et après de longs gémissements, « Du moins, dit-il, tu porteras ta tête vers le ciel. » En ce même moment, le corps de la nymphe s'amollit, pénétré d'une essence divine, la terre en est parfumée. Un arbre dans son sein étend ses racines, perce la tombe, s'élève et distille l'encens. C'est ainsi que le soleil, ne parvenant point à sauver la femme qu'il aime, la transforme en arbre à encens pour que, par-delà sa mort, elle puisse continuer à être présente sur terre grâce à son parfum. L'histoire de Philémon et Baucis est, elle aussi, une belle histoire d'amour qui prendra place dans l'éternité grâce à une métamorphose végétale. Ayant rendu service aux dieux, ceux-ci leur accordent une faveur. Philémon leur demande de mourir en même temps que Baucis, et Baucis de mourir en même temps que lui, afin qu'il s'épargne la tristesse provoquée par la disparition de l'être aimé. Non seulement ils seront exaucés, mais en plus ils seront respectivement transformés en chêne et en tilleul, pouvant ainsi rester près l'un de l'autre pour toujours. Voici le passage qui leur est consacré dans le texte d'Ovide. « Bonnes gens, dit Jupiter, exprimez un vœu et nous vous l'accorderons aussitôt. » Les deux vieillards chuchotèrent un instant, puis Philémon parla. « Qu'il nous soit permis d'être vos ministres et les gardiens de ce temple et, puisque nous avons si longtemps vécu ensemble, ne laissez aucun de nous demeurer seul un jour, accordez-nous de mourir ensemble. » Émus, les deux dieux acquiescèrent. Longtemps, le vieux couple servit dans le grand édifice et l'histoire ne dit pas s'il leur arriva parfois de regretter leur chaumière douillette et les flammes joyeuses de son astre. Mais un jour, qu'ils se tenaient l'un près de l'autre devant la magnificence dorée du temple, ils se mirent à parler de leur vie ancienne, si dure et cependant si heureuse. Ils étaient maintenant parvenus à un âge très avancé et soudain, comme ils échangeaient leurs souvenirs, chacun s'aperçut que l'autre se couvrait de feuilles. Puis une écorce les entoura. Ils n'eurent que le temps de s'écrier tendrement « Adieu, chers compagnons !» Les mots avaient à peine passé leurs lèvres qu'ils étaient transformés en arbres. Et voilà, je vous laisse entre éphémère et éternité, entre littérature et radio, entre mythe et réalité. Un grand merci à Mathilda Fiorello et Julien Vaclary de m'avoir contacté pour participer à ce festival dont je vous invite à regarder la programmation sur culture.univ-grenoble-alpes.fr. C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.